7h23 minutes. On voyait la vague venir, c'est-à-dire tous ces cas d'hospitalisation, hospitalisation régulière, soins intensifs, qui s'additionnent malheureusement. Et hier, point de presse avec le premier ministre, pour nous dire quoi? Pour nous dire que le système de santé fragile est en train de plier et qu'il pourrait être submergé si la tendance se maintient avec l'augmentation des cas de COVID. Ce qui veut dire concrètement qu'on a comme deux types de patients au Québec. On a les patients COVID, puis on a les patients non-COVID. Et pour faire de la place pour les patients COVID, il faut malheureusement délester. Ce qui veut dire que des gens n'auront pas droit à une chirurgie, ils n'auront pas droit à un examen, et qu'ils sont placés sur une liste d'attente. On parle actuellement de 140 000 cas de chirurgie, donc de patients, d'êtres humains, qui sont en attente au Québec. Je fais le point avec Dr Lucie Aupaternay, qui est sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Dr Aupaternay, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
J'aimerais, là, ce matin, vous avez été très clair hier en point de presse, mais je veux reprendre ça, là. Quand on parle de délestage, et je vais me concentrer sur la grande région de Montréal, là, qu'est-ce qu'on laisse tomber parce qu'on manque de personnel?
Alors, on laisse tomber plusieurs affaires, soit en partie ou en totalité. Telles que vous avez mentionné, il y a par exemple l'endoscopie pour le dépistage de cancer de côlon. Il y a des chirurgies, par exemple, des chirurgies de remplacement de hanches ou des chirurgies en urologie. Aussi, il y a beaucoup de cliniques spécialisées hospitalières dans les hôpitaux qui sont également fermées.
Et des cas de greffe aussi, greffe de rein.
Alors, pour ce qui concerne les greffes, on a dû mettre en veille le don vivant de rein, à part pour la pédiatrie. Également, avec les experts de Transplant Québec, on a dû resserrer les critères pour tous les organes pour la transplantation pour les prochaines quelques semaines.
OK. Ça veut dire que quelqu'un qui attend, par exemple, depuis déjà un an pour une chirurgie, sa vie n'est pas en cause, mais sa qualité de vie est lourdement hypothéquée. Elle va continuer d'attendre.
Oui, exactement. Alors, sur les 140 000 cas que vous avez mentionnés, il y a une 10 % à peu près 14 000 qui sont en attente de plus qu'un an. Et comme vous dites, même si ce n'est pas une question de vie ou de mort, mon père, quand il a eu ses remplacements de hanches, sa qualité de vie a tellement augmenté par la suite. Alors, on ne peut pas dire que non plus que c'est complètement électif.
Au-delà des chirurgies, vous avez parlé de l'endoscopie, est-ce qu'il y a d'autres examens qui sont annulés? Tout ça pour vous poser la question très directe, là. Est-ce qu'on va échapper des cas de cancer parce qu'on ne fera pas le dépistage ou d'autres types de maladies?
Nous avons quand même essayé et nous essayons encore d'avoir une approche différente que lors de la première vague où on a simplement arrêté, par exemple, le dépistage de cancer de sein, la mammographie. Alors, le plus possible, nous continuons ces activités-là. Ceci dit, il faut quand même savoir que même en imagerie, il y a quand même une baisse de tests et alors avec ça, quelques dépistages aussi.
Mais ça veut dire, docteur Aupaternay, là, et vous me corrigerez, là, mais ça veut dire que si on dépiste peu ou moins ou pas, ce sont des gens qui vont se retrouver avec des cancers, d'autres types de maladies, avec un pronostic qui va être moins positif que si on avait détecté plus vite.
Écoutez, tout dépend aussi de pendant combien de temps il faut le délester. Et le plus longtemps que ça s'étire, le plus que ce que vous décrivez peut se passer, effectivement.
OK. En résumé, plus vous avez de patients COVID dans les hôpitaux, moins vous êtes capable de soigner des patients non-COVID. Et pour ces patients non-COVID, c'est soit une qualité de vie médiocre qui continue ou au pire, un pronostic de santé qui est mauvais.
En résumé, oui, c'est bien ça. On n'est plus dans vraiment l'électif qu'on annule. Il y a vraiment des conséquences réelles pour des Québécois et Québécoises qui ne peuvent pas avoir accès aux différents types de soins.
OK. Ça, c'est évidemment les opérations de délestage. Passons à l'autre étape. Si jamais ça déborde, si les cas continuent de monter, les hospitalisations, soins intensifs, arrive le moment de faire des choix. Et il y a des règles éthiques, il y a des comités qui existent pour ça, là. Pourriez-vous m'expliquer en quelques mots, l'expliquer aux auditeurs, là, comment, dans le réseau de la santé, on va choisir qui on soigne et qui on soigne pas.
Mais peut-être, il faut savoir quand même que avant d'y arriver, on essaie de mettre plusieurs éléments en place. Vous avez certainement vu passer que Sainte-Justine va commencer à accepter des patients adultes dans leurs soins intensifs dès la semaine prochaine. C'est quand même quelque chose qu'un hôpital pour enfants va accepter des patients adultes. Alors, comme vous voyez, le réseau vraiment essaie tout pour rehausser leur capacité pour pas y arriver. Mais si jamais il faut, il y a un protocole qui décrivent comment faire une évaluation de différents patients qui ont besoin d'avoir accès aux soins intensifs et aux ventilateurs et qui est disponible publiquement. Puis, il y a des comités en place dans chacun des établissements qui vont faire, qui vont regarder les dossiers des patients pour essayer de voir qui est en meilleure position de survivre s'il y a un traitement versus une autre personne qui a moins de chances.
OK, mais prenons un exemple clair, là. Vous avez un ventilateur, vous avez un patient de 89 ans qui a la COVID, qui a besoin du respirateur, puis vous avez un autre patient à COVID qui a 42 ans qui a besoin du respirateur. À qui on l'installe?
Il y a plusieurs critères qui ne sont pas simplement l'âge. Il faut regarder, on regarde l'âge, on regarde les comorbidités pour finalement regarder quel est le pourcentage de chances de survie et si jamais le protocole est utilisé, le ventilateur est donné à la personne qui est estimée d'avoir la plus grande chance de survie.
Ce qui veut dire que l'autre ne l'aura pas.
Exactement.
On a vu aux États-Unis, en fait, on a vu même en Europe, vous le savez, des cas où, je pense à l'Italie, où on a fait des choix de cette nature. On voit en Californie où, par exemple, on demande aux paramédics de ne pas transporter les gens vers les hôpitaux. Je comprends que ce sont des situations extrêmes, mais ça veut dire que si la pression continue d'augmenter sur le réseau, sur l'ensemble des hôpitaux, on va se retrouver à des situations peut-être pas identiques, mais quand même avec des choix épouvantables à faire, là.
Mais c'est de ça qu'on a tous peur, on est inquiète, puis il y a les médecins sur le terrain qui sont inquiètes avec un exercice qu'on a vraiment pensé purement hypothétique il y a quelques mois. Et là, de plus en plus que la pression monte, mais de plus en plus qu'il y a l'inquiétude réelle sur le terrain de besoin de l'utiliser éventuellement. On espère évidemment de n'y jamais arriver.
OK. Quand vous faites la comparaison entre la situation actuelle et la crise du printemps, c'était pire au printemps parce qu'il y a eu du délestage aussi au printemps. Est-ce que c'est pire actuellement?
C'est pire actuellement parce que nous n'avons plus le même nombre de personnel dans les hôpitaux. Il y a eu prenons juste le cas des infirmières. Il y a des infirmières qui ont été envoyées au CHSLD, aux résidences pour personnes âgées. Il y a des infirmières qui sont maintenant dans les cliniques de dépistage. Il y a aussi 8 000 de travailleurs de santé qui sont en maladie. Alors, maintenant, on est dans une situation où le nombre de soignants est beaucoup diminué comparé à la première vague. Alors, c'est ça aussi qui nous inquiète.
OK. Je vous pose la question que beaucoup d'auditeurs me posent en disant, mais coudonc, on regarde les hospitalisations, par exemple, au total, là, 1436. Le nombre de patients aux soins intensifs, 211 au total actuellement. Là, on regarde ça, mais on dit, comment le système de santé québécois peut culbuter avec 1500 cas de COVID à l'hôpital puis 200 patients aux soins intensifs. On a de la misère à figurer ça.
Ou il y a d'autres personnes qui disent, écoutez, là, les urgences sont débordées à chaque hiver, puis ils ne le sont pas aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un problème?
Ouais.
Ceci dit, si on regarde le durée moyen de séjour, si on va au CHUM aujourd'hui et on a besoin d'être hospitalisé, on va attendre sur le civière pendant 28 heures. Il y a plus que 200 personnes dans la région de Grand Montréal qui attendent sur civière plus que 24 heures s'ils ont besoin d'être hospitalisés. Alors, la situation vraiment, c'est ce que il nous manque du personnel. Il nous manque pas des lits physiques, il nous manque pas des ventilateurs physiques. Ça, on en a plein. Il nous manque des personnes pour soigner les patients dans ces lits-là. C'est ça qui nous manque. Et la situation est malheureusement très différente comparée au printemps passé.
Prenons le cas des infirmières, là. En chiffre absolu, là, je fais le total là, des infirmières du réseau de la santé, celles qui œuvrent dans le privé ou peu importe. Est-ce qu'on a assez d'infirmières au Québec pour faire marcher le système, pour s'occuper de patients qui sont dans des lits, qui sont actuellement disponibles, faire fonctionner des appareils qu'on a, mais où on n'a pas le personnel requis? On a-t-il assez d'infirmières au Québec pour faire la job?
On est en train de regarder plusieurs stratégies pour vraiment rehausser la présence des infirmières. On fait tout ce qu'on peut pour encourager le temps complet. On est en train de regarder aussi les étudiantes en DECBAC, en infirmière, prendre une pause pour venir prêter main fort aussi aux hôpitaux. La vaccination, espérons ça aussi, qui va ramener des infirmières vers le réseau. Alors, il y a quand même plusieurs pistes de solutions qu'on est en train de regarder, mais ça va prendre plusieurs semaines avant que tout ça se mette en place. Alors, entre-temps, malheureusement, le délestage est une nécessité réelle.
OK, quand je reviens là, sur les chiffres, je vous le disais, là, au total, 211 patients aux soins intensifs, 1436 hospitalisations. Là. Quelles sont les cibles? Il faut ramener ça à combien? Ou au contraire, si ça dépasse quoi? Où on passe là, à l'étape plus douloureuse?
Mais encore, si on prend des chiffres, ouais. c'est à peu près, c'est ça qu'on avait dit, on a dit 350 à 400 lits de soins intensifs pour les patients COVID, pour être encore en mesure de traiter des patients qui ont des contextes non COVID. Et pour les lits, c'est comme on a dit, c'est à peu près 2000. Alors, on n'a pas une très grande marge de manœuvre comparée à ce qu'on avait printemps passé. Alors, vraiment, les chiffres qu'on voit, c'est un stress énorme sur les réseaux tels quels. Puis, même les cibles que je vous nomme maintenant, il y a d'autres patients qui sont physiquement dans ces lits-là. Alors, il faut quand même soit rehausser le nombre de lits qu'on a staffés ou délester des activités pour libérer ces lits-là. Alors, même dans la situation actuelle, c'est un stress important.
Et là, j'entends mes auditeurs dire, mais coudonc, on comprend les mesures annoncées, exemple le couvre-feu, mais il n'y a pas moyen, là, vous m'avez dit tantôt, on va recruter, puis bon, les étudiantes, puis tout ça, mais il n'y a pas moyen, ou il n'y aurait pas eu moyen, voyant venir ça, je ne sais pas, d'accélérer l'embauche, de faire des ententes avec la FIC, je ne sais pas, là, moi, je suis pas un négociateur, mais d'éviter qu'on se retrouve avec un... Parce que dans le fond, vous me dites, il y a moins de cas, il y a moins de patients qu'au printemps, mais notre monde est plus fatigué, puis on en perd au combat, ce qui fait que ça va péter.
Mais non seulement ça, comme je vous ai dit aussi, nous avons envoyé des infirmières pour faire des tâches supplémentaires, comme les cliniques de dépistage, comme ouais. en CHSLD, comme en RPA. Alors, il y a quand même des activités supplémentaires avec notre même bassin d'infirmières sur place. Alors, il y a vraiment ça qui est en jeu.
C'est compliqué, le réseau de la santé. Tu as l'impression que tu vas aider une place, tu viens de découvrir à l'autre place, que c'est tellement fragile, je vous dis pas que les cas sont pas réels, là, mais que ça augmente pas de façon exponentielle, puis bang, ça peut tomber.
Mais quand on voit des cas, alors le nombre de cas qu'on a de patients avec COVID à un certain temps, ça se traduit 10 à 14 jours plus tard dans les hospitalisations. Alors, c'est pour ça qu'avec les projections qu'on voit de INES, c'est vraiment ça qu'on voit, une vague à venir, et on anticipe quand même une augmentation des hospitalisations. Hier, il y a eu une nette augmentation dans le Grand Montréal de 45 hospitalisations. Encore une fois, peut-être, ça n'a pas l'air très grand, mais c'est quand même, il y avait 106 personnes qui sont rentrées dans les hôpitaux, alors, et quelques-uns qui sont sortis. Mais cette pression qui continue, jour après jour, et pour les semaines à venir, c'est ça qu'on
OK. En terminant, j'ai une question plus personnelle, Dr. O'Patterney. Vous prenez des décisions, vous êtes la sous-ministre adjointe, là, c'est pas rien, au ministère de la Santé. Là. Si vous décidez un matin en vous levant, là, vous regardez le tableau puis vous dites, OK, vous allez m'annuler tel type d'examen. Vous allez reporter tant de chirurgie. Puis là, je comprends que vous ne faites pas ça tout seul, là, mais je ne veux pas prendre une image trop forte, là, mais vous avez pratiquement le droit de vie ou de mort sur des patients, vous, là, quand vous prenez vos décisions.
Vous l'avez souligné très bien, je ne le fais pas seule. J'ai un comité clinique de COVID où il y a plusieurs ordres, les ordres des infirmières, l'ordre des pharmaciens, les deux fédérations des médecins omnispécialistes, le collège des médecins, INES, des présidents de tous mes comités cliniques d'experts. Nous sommes vraiment une équipe. Et avec des collaborateurs et nous prenons toutes ces décisions ensemble. Alors, j'ai la chance de travailler avec des personnes extraordinaires et c'est vraiment toute cette équipe ensemble que qu'on regarde et qu'on voit comment minimiser les dommages, mais malheureusement, on est arrivé à une situation où les délestages qui sont faits sont vraiment de moins en moins électifs.
Mais sur le plan humain, sur le plan personnel, comment vous vivez ça? Prendre des décisions comme ça, même si vous avez une équipe avec vous?
Écoutez, moi, je suis rentrée au ministère pour tout augmenter. Donnons plus de traitements, plus de types de médicaments, etc. Alors, d'avoir à diminuer les soins et à voir comment les orienter est très, très difficile. C'est pas facile comme décision à prendre.
Merci, Dr. Opaterney. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir, Dr. Lucie Opaterney, qui est sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux.